Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Plusieurs provinces sont actuellement pacifiées grâce aux efforts de la MONUSCO. Déclaration du gouverneur de l'Ituri à l'occasion des 25 ans de présence de la mission onusienne en RDC. Le général Luboya Nkashama s'est dit heureux de la présence de la mission qu'il a toujours appuyée, dit-il. Il faut revoir le mode d'accession au pouvoir des gouverneurs des provinces, des députés provinciaux, des administrateurs des territoires et des animateurs des entités territoriales décentralisées. C'est l'une des recommandations issues des travaux de la 11e conférence des gouverneurs clôturée hier à Calémie. Pendant 3 jours, les participants ont examiné plusieurs problèmes qui caractérisent la gestion du pays. Et puis, Nord Kivu, malgré la guerre qui a touché Bweremana depuis février, nous avons réussi à sauver l'année académique. Satisfaction exprimée par le directeur général de l'ISP de Bweremana, Thierry Mutindu, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Plusieurs provinces de la RDC sont actuellement pacifiées grâce aux efforts de la MONUSCO qui reste présente dans 2 provinces seulement, l'Ituri et le Nord Kivu. Cette déclaration est faite par le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboya Nkashama, à l'occasion des 25 ans de présence de la mission onusienne en RDC. Il ajoute que pour ceux qui se livrent à la désinformation sur la MONUSCO, c'est parce que la mission onusienne est un témoin gênant pour leurs intérêts contre la République. Le gouverneur Johnny Luboya Nkashama s'exprime au micro de Radio Kapi.
On a retiré la MONUSCO de presque partout. Pourquoi est-ce que la MONUSCO s'est retirée? C'est tout simplement parce qu'il y a la paix maintenant. Moi, je viens de l'Équateur. J'ai passé 6 ans à l'Équateur. Il y avait la MONUSCO là-bas. Ils ne sont plus là. Le jour où ils partaient, vraiment, on se disait, mon Dieu, est-ce que ça... Mais voilà. Et partout de là où ils sont partis, c'est tout simplement parce qu'il y avait la paix. Et aujourd'hui, il nous reste seulement le Nord, Kivu et l'Ituri. C'est vraiment palpable, le travail de la MONUSCO. Il y a ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, venir ici pour prendre, piller et tout. Et il y a la MONUSCO. Moi, j'ai toujours dit qu'il s'agit d'un mauvais témoin. Pour certains, ils se disent que voilà, ceux-là qui veulent faire de l'Est, n'est-ce pas, un espace d'intérêt, d'influence, et qui voient la MONUSCO là-bas, ils se disent, ah voilà, nous avons un mauvais témoin parce que la MONUSCO va rapporter les actes que nous sommes en train de poser ou les activités que nous posons ici à l'Est. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous, moi personnellement, moi, je suis heureux. Pourquoi? Parce que ils m'appuient justement.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, dans le territoire de Beni, la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les droits humains a visité hier le site des déplacés de Luvangira. C'est dans la commune rurale d'Oicha, 30 km de Beniville. Paula Gaviria a eu un moment d'échange avec ses déplacés afin de comprendre leurs conditions de vie dans ce site. Elle a également échangé avec les organisations partenaires des agences de l'ONU qui assistent ces déplacés. Pour elle, les efforts doivent être fournis afin de protéger et assister ces personnes vulnérables et sécuriser leur milieu d'origine. Paula Gaviria est au micro de Marc Marofimbo.
On a eu une réunion avec des femmes. Ils ont parlé de ses besoins. Toutes veulent la paix. Ils peuvent avoir de meilleures conditions s'ils peuvent rentrer chez eux. Mais ils savent que maintenant, il n'y a pas de conditions de sécurité pour le fait. Alors, ils veulent qu'on fasse un plaidoyer au gouvernement national pour que des conditions de paix pour la région. Et améliorer les conditions de protection, d'alimentation, d'assistance en général. Je pense qu'il faut travailler plus ensemble. Et je sais que c'était une région où il y avait des conflits. Il faut faire de la présence pour le moment et sécuriser. Il y a de la MONUSCO et il y a des autres, de la présence de la police ici. Et il faut faire de la présence et avec des solutions pour les personnes pour qu'ils puissent vivre une vie plus normale qu'il se peut. Dans les conditions qu'il y a, mais pas les oublier, parce qu'ils sont des personnes qu'il faut vivre en dignité.
Sud Kivu, 27 professionnels de santé, entre autres, chirurgiens, infirmiers et anesthésistes, provenant des 13 pays représentant 4 continents, ont suivi la formation dénommée équipe chirurgicale en temps de guerre. Formation organisée du 26 au 29 novembre par le pôle de formation chirurgicale du CICR. C'est à l'hôpital général de référence de Bukavu et à la faculté de médecine de l'université catholique de Bukavu. Objectif, adapter leurs pratiques professionnelles et leurs connaissances au contexte contexte humanitaire et aux ressources limitées afin de fournir des soins chirurgicaux de qualité aux blessés et malades. Détail avec Rachel Kessé.
Cette formation concernait les cliniciens, en particulier les chirurgiens, les anesthésistes et infirmiers impliqués dans le soin aux blessés par arme. La formation inclut un apprentissage en ligne obligatoire suivi d'un programme interactif en présentiel. Cela en vue d'assurer des soins sécurisés pour les patients blessés par balle dans les contextes des ressources limitées liées aux conflits armés ou à d'autres situations de violence. Obadi Bitsomba, chirurgien plastique.
La formation a été basée sur la prise en charge des patients blessés par balle depuis le temps qu'il est blessé jusqu'à l'arrivée à l'hôpital et même jusqu'à sa sortie à l'hôpital. Nous avons aussi pris à accompagner le patient dans son évacuation. Et c'était très intéressant parce que c'était une équipe, on l'a fait en équipe, infirmiers, anesthésistes, médecins, chirurgiens. Elle est très importante parce que nous sommes dans un contexte de guerre dans cette région. Parce qu'en fait, la prise en charge des blessés par balle, elle est différente de la prise en charge d'un accidenté de la route ou des autres patients.
Signalons que c'est la deuxième formation du genre qu'organise le CICR pendant l'année 2024 à Bukavu. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, clôture hier à Kalemie de la 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Pendant 3 jours, les participants ont examiné plusieurs problèmes qui caractérisent la gestion du pays. C'est notamment sur le plan politique, sécuritaire, économique, financier, juridique, culturel et des infrastructures. L'objectif est la mise en place d'une administration provinciale forte, efficace et qui répond aux aspirations des populations. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises. Le chef de l'État promet d'assurer le suivi de ces recommandations, le compte-rendu de Paulin Munanga.
Parmi les recommandations, il y a celles formulées par la commission politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle. Les participants recommandent notamment de revoir les modes d'accession au pouvoir des gouverneurs des provinces, des députés provinciaux, des administrateurs des territoires et des animateurs des entités territoriales décentralisées. Sur les plans économiques et financiers, les gouverneurs recommandent entre autres les paiements réguliers de leurs salaires, ainsi que ceux de tous les responsables politiques en province et d'assurer la régularité des paiements des frais de fonctionnement pour des exécutifs provinciaux et des entités territoriales décentralisées. Et sur le plan des infrastructures, les participants recommandent de construire ou de parachever les chantiers du PDL 145 territoire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, invite le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs des provinces d'assurer un suivi permanent des recommandations formulées à l'issue de ces assises. La prochaine conférence des gouverneurs est prévue en 2025 dans la province du Lualaba. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
Direction la province du Olomami. Des maisons détruites par la pluie et des ménages sans abri à Mavungwe et Katondo dans le territoire de Bukama. L'administrateur de ce territoire a désormais les regards tournés vers le gouvernement pour assister ses administrés dépourvus de tout, dit-il. On écoute à ce sujet Amadou Kalenga, administrateur intérimaire du territoire de Bukama. Il est joint par Jean Gando.
En date du 14 novembre 2024, il s'est abattu une très grande pluie dans le groupement Openba, Cheferi de Butumba, précisément dans les localités Mavungwe et Katondo, causant ainsi des dégâts matériels considérables, laissant plus de 231 foyers à la belle étoile. Nous avons 231 maisons détruites, 3 écoles, 4 églises et 1 centre de santé répartis comme suit. Localité Katondo, 228 maisons détruites, 2 écoles, 2 églises et 1 centre de santé. Localité Mavungwe, 9 maisons, 1 école et 2 églises. Au vu de cette catastrophe naturelle qui vient de frapper notre entité, et étant donné que nous n'avons pas de moyens pour assister les victimes, nous lançons un SOS au gouvernement national et provincial afin de nous venir en aide pour soulager notre communauté.
Kassai Oriental, signalons la distribution vendredi à Mbujimayi de l'assistance humanitaire aux familles victimes de la démolition des maisons sur les avenues Dodoma et Zaïre au quartier de la Plaine dans la commune de Bipemba. Cette opération est présidée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Reportage de Esther Ndalafina, rendu ici par Étienne Lissumbo.
Cette cérémonie se déroule en présence de plusieurs dignitaires, dont des organisations humanitaires, le ministre provincial des Affaires sociales et Action humanitaire. Trois sites de distribution sont ouverts. Il s'agit de la Caritas, de la mairie et de la maison communale de Bimpemba. L'assistance humanitaire est constituée des sacs de maïs de 50 kilos, du sucre, du sel, de l'huile végétale, des cartons de savon de bain, des mesurettes de petits frettins et d'une enveloppe pour permettre aux victimes de trouver un logement temporaire. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales et Affaires humanitaires, indique que cette opération s'effectue sous l'impulsion du président de la République. Le bénéficiaire a remercié le gouvernement pour ses gestes de solidarité, signalant que c'est vers la fin du mois d'octobre que plusieurs maisons situées entre les avenues de Doma et Zaïre, dans les quartiers de la Plaine, à Bimpemba, ont été démolies à la suite d'un arrêté provincial signé le 6 septembre dernier pour des raisons d'utilité publique.
Et puis, non à son retour à la tête de Congo Airways et oui aux poursuites judiciaires à son encontre. C'est ce que dit la pétition signée le 27 novembre par 13 des 14 agents et cadres de la compagnie nationale Congo Airways à Kindu. Une pétition initiée à l'encontre de José Louéa Dubié, ancien directeur général de cette compagnie aérienne congolaise. Ces agents pétitionnaires demandent même l'implication du chef de l'État et du ministre de la Justice dans cette affaire. On écoute le président syndical de Congo Airways à Kindu, Théophile Kibali, au micro de Florence Kizalunga.
Nous demandons à son Excellence Monsieur le ministre du portefeuille à maintenir sa décision de suspension et soutenons indéfectivement la relance et la consolidation des acquis prônés par le chef de l'État au sein de la compagnie nationale aérienne Congo Airways. Vous étiez avec nous ici la fois dernière, vous avez compris ce qui a été reproché à notre DG, mais le monsieur n'a pas compris, il a ajouté encore un autre fait grave de vendre tout un avion de la République démocratique du Congo dont nous n'avons pas vraiment croisé les bras. Nous sommes en train de signer des pétitions. D'ailleurs, nous l'avons signé à 99% ici à Kindu pour dire non au retour de telle personne à la tête de la compagnie. Il a trop fait comme bavir, voire même 15 millions donnés par la CNCS pour notre relance. Jusque-là, il ne veut même pas justifier 100 francs. Vraiment, le Conseil d'État peut retirer sa décision demandant ou la levée de la suspension de M. Josué Dibé.
Goma, ville écologique, c'est un projet présenté et défendu jeudi 28 novembre à la mairie de Goma par Prince Kiangi devant les membres du comité urbain de sécurité. Ce projet initié par le groupe des écologistes RDC vise à assurer une éducation environnementale permanente dans tous les quartiers de la ville à travers l'installation des noyaux d'écologistes à la base. D'après Prince Kiangi, ce projet veut attirer l'attention des autorités ainsi que de la population au respect des normes environnementales. Il explique au micro de Sifa Maguru.
N'est-ce pas que Goma est mondialement réputée comme une ville touristique, mais elle ne saurait maintenir cette renommée sur le plan international si les normes environnementales ne sont pas respectées. Or, nous constatons non sans regret que nombreux habitants de la ville de Goma bafouent et ignorent éperdument les normes environnementales. À bord des véhicules, vous allez trouver des jeunes gens qui jettent des bouteilles d'eau sur la chaussée. Le peu d'arbres que nous avons sont arrachés et coupés par des élèves en bleu blanc. Les caniveaux sont devenus des poubelles. N'est-ce pas que Goma est entouré de deux volcans? Le lac Kivu garde pour nous du gaz méthane et l'afflux massif des populations déplacées dans les environs de la ville de Goma devait constituer une préoccupation sur le plan écologique. Voilà pourquoi le groupe Les Écologistes RDC développe un projet intitulé Goma Ville écologique. Nous allons devoir assurer une éducation environnementale permanente auprès des habitants de la ville de Goma. Nous allons devoir susciter et alimenter des débats publics autour des enjeux environnementaux. Nous allons aussi organiser des activités d'assainissement et de reboisement.
Le groupe des écologistes RDC sollicite un accompagnement de la part de la mairie de Goma, mais aussi l'appropriation de ce projet par les autorités de base.
Actualité internationale.
Demain 1er décembre 2024, l'Afrique du Sud deviendra le premier pays africain à prendre la présidence du G20, un événement majeur dans la diplomatie internationale. Ce forum des grandes puissances économiques mondiales regroupant 19 pays et l'Union européenne verra l'Afrique jouer un rôle clé dans les discussions mondiales, particulièrement dans un contexte des tensions géopolitiques et commerciales croissantes. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé que la présidence sud-africaine se concentrera sur des priorités essentielles, à savoir la croissance économique inclusive, la sécurité alimentaire, le changement climatique et la réforme des institutions financières mondiales. En particulier, l'Afrique du Sud mettra l'accent sur les défis spécifiques du continent, a dit le président sud-africain.
L'invité.
Il nous vient du Nord Kivu. Malgré la guerre qui a touché Bwirimana depuis février, nous avons réussi à sauver l'année académique. C'est la satisfaction exprimée par le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique ISP de Bwirimana. Nous sommes à la limite entre le Nord et le Sud Kivu. Thierry Moutidou explique comment cet établissement public a adapté son fonctionnement en déplaçant les cours à Minova et à Mugunga pour accueillir les étudiants déplacés. Thierry Moutidou est avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Thierry Moutindou, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Aujourd'hui, comment fonctionne cette institution?
En tout cas, l'ISP Bwirimana fonctionne maintenant dans des conditions de résilience. Vous savez que depuis que la guerre a éclaté, nous avons été sommés de quitter les lieux et de nous déplacer. Et donc, par exemple, aujourd'hui, nous continuons avec les activités à Minova, à l'Institut Luanga, où nous avons été accueillis. Et pour ceux qui ont fui de ce côté de Goma, nous fonctionnons à Mugunga. Donc c'est des conditions très très difficiles. Vous savez que c'est une école publique de l'État, mais jusqu'à aujourd'hui nous ne sommes pas pris en charge. Ça fait que et les enseignants et les étudiants, en tout cas, ils passent les activités dans des conditions très difficiles.
En parlant de la manière dont vous fonctionnez, une partie à Minova, une partie à Mugunga, un auditoire qui est divisé en deux, comment les cours se tiennent?
En tout cas, on n'a pas de choix. C'est la situation qui nous met dans ces conditions. On n'a pas le choix. Et donc, pour ceux qui sont à Mugunga, par exemple, un enseignant qui a fini son cours à Mugunga dans une promotion, et la même promotion étant à Minova, il est obligé d'aller soit là donner le cours, ou on prend quelqu'un d'autre qui est là, parce que la majorité aussi des enseignants, ils ont du mal à traverser les eaux. Après le naufrage avec le bateau Merdi, les enseignants ont vraiment de la peur à fréquenter encore ces eaux. Et donc, nous arrangeons pour que ça tienne. Les conditions ne sont pas du tout bonnes, mais on s'arrange parce qu'on a le devoir aussi de continuer à former ces jeunes. Parce que vous savez, l'ISP a un objectif de former des enseignants du secondaire. Et si nous ne le faisons pas, donc, demain, les écoles secondaires peuvent être en carence des enseignants. Parce que les ISP, c'est des institutions qui ont la charge de former des enseignants qui vont prendre en charge les enseignements au niveau des écoles secondaires.
Et aujourd'hui, vous en êtes à quel niveau de l'année académique?
L'année académique a repris depuis le 28 octobre. C'est Madame la ministre qui a fait le go. Il a lancé les activités à Kinshasa. Et nous, on a déjà commencé. Nous avons déjà eu deux réunions et les premiers enseignements ont commencé. Et donc, les enfants sont déjà au cours dans ces conditions dont je vous ai parlé.
Et vous avez quel effectif d'étudiants?
Les effectifs, nous en avions avant 206. Mais au fur et à mesure que la guerre continue, les effectifs sont en train de baisser.
Comment ont été les résultats des étudiants qui étudient dans ces conditions pour l'année académique que vous avez terminée?
Vous savez qu'il y a des étudiants qui finissent à la première session, d'autres à la deuxième session. Et il y a encore d'autres qui ont des litiges et qui n'ont encore pas fini avec la passation des deuxièmes sessions. Et donc, en général, nous pouvons dire que dans cette résilience, nous avons réussi à sauver l'année. Et nous commençons cette autre année académique 2024-2025. Le pourcentage, s'il faut le dire, bon, nous avons réussi à un certain pourcentage. Nous aurons à déterminer à 90 ou à 95 lorsque tout le monde aura déjà passé toutes les sessions qu'il faut pour qu'on termine avec une année académique.
Et quelle filière vous organisez à l'ISP Bwirimana?
L'ISP Bwirimana organise les filières comme la géographie, gestion de l'environnement, anglais, cultures africaines, français, langues africaines, histoire, gestion du patrimoine et développement, l'agro-vétérinaire, les mathématiques et physiques, les sciences commerciales, économiques, administratives et de gestion.
L'ISP Bouhémana fonctionne en déplacement depuis février 2024. Quelle est votre demande aux autorités?
La grande demande aux autorités, c'est la paix. Et si possible, la réouverture de la route, même dans ces conditions de guerre, pour nous permettre de vaquer librement à nos occupations. Et aux hommes de bonne volonté, dans ces conditions de résilience, en tout cas, nous sollicitons un appui, surtout financier, si pas à l'école, mais aux étudiants. Parce que nombreux parmi les étudiants ont déjà abandonné. Ils ne savent plus payer les frais académiques. Or, les enseignants n'enseignent pas gratuitement. Et donc, si ceux qui ont de bons cœurs pouvaient venir en aide aux étudiants qui sont en train d'abandonner pour qu'ils continuent avec les études, ça sera une bonne chose et pour l'école, et pour les étudiants, et pour la société.
Monsieur Thierry Moutsindou, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de Bouhémana. Merci.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Et notre invité répondait aux questions de Rosalie Zawadi. C'est la fin de ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, à la mise en onde Jean-Claude Siala, Mwana Makengo Swalou. Merci d'avoir été des nôtres.